probablement qu'il a encore un message pour vos chers voisins. Certainement qu'il a un message pour mes voisins, pour nos voisins. Alors, qu'est-ce que Jésus aimerait dire à nos voisins tout en leur donnant cette possibilité d'être à l'aise dans leur vie quotidienne?
Alors, imaginez si vous avez un voisin qui vous laisse un petit mot pour vous dire que ce soir, le président de la République va venir dîner chez lui. Alors, vous poserez peut-être des questions, parce que, en tout cas, moi, si j'étais à votre place, je me poserais certaines questions. Par exemple, je me demanderais, qu'est-ce qui motive le président à venir le voir, lui? Qu'est-ce qu'il a de spécial? Et qu'est-ce qu'il a fait de si important pour mériter une telle visite? À quelle heure le président va-t-il arriver? Quand est-ce qu'on va sécuriser le secteur, le périmètre? Et quand est-ce que les gyrophares vont flasher comme cela dans la nuit pour dire, ben, il arrive? Et puis, dans quelle mesure je pourrais, moi, profiter de cette présence? Est-ce que je pourrais quand même avoir la possibilité de me glisser, effectivement, et glisser même un petit mot au président, parce que j'ai quand même quelques questions à lui poser? Au fait, est-ce que mon voisin, parce que ça, je l'ai entendu dire, mais est-ce que mon voisin avait l'intention de m'en parler? Parce qu'il me parle de la pluie et du beau temps. Mais pourquoi il ne me parle pas d'une affaire aussi importante que cela? Et puis, à la fin, je me demanderai si le président pourrait peut-être se tromper de porte et frapper plutôt à la mienne. Je vais préparer quand même un dîner au cas où le président, en se trompant, viendrait chez moi. En tout cas, je vais certainement faire preuve de curiosité tout le long de cette soirée. Et peut-être quelqu'un veut frapper à votre porte, à la porte de votre voisin. Là-dessus, il y a quelqu'un dans la Bible, Jésus lui-même, parce que c'est autour de lui que tout a tourné pendant cette semaine. Lui aussi, il emploie cette idée, cette image. « Voici, je me tiens à la porte, dit-il dans le dernier livre de la Bible, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui, je dînerai avec lui, je prendrai un repas avec lui. J'ai envie de dire que je prendrai la scène avec lui, ce repas sacré, et lui avec moi. » Et cela se trouve dans Apocalypse chapitre 3, verset 20. Justement, David, j'ai un voisin qui me dit parfois que le monde va mal. Et il me demande souvent pourquoi. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire si tu le rencontrais?
Si je rencontre ton voisin, peut-être que je pourrais commencer par lui dire qu'il y a une différence notable entre la vision, la mentalité du ciel et la mentalité humaine. Parce qu'il y a comme une sorte d'incompatibilité là-dedans. D'ailleurs, le texte biblique nous dit dans 1 Jean chapitre 2, verset 15, « N'aimez pas le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. » Donc, tout semble à dire que effectivement, cette mentalité du monde n'est pas bonne. En tout cas, n'est pas bonne pour ceux qui veulent vivre dans cette éternité, ceux qui veulent vivre en présence de Dieu. Donc, comment faire quand on est dans ce monde où tout va mal et se mettre dans les conditions pour aller dans cette vie éternelle? Alors, on pourrait se dire mais qu'il faut éviter le monde. Mmh. Et pour cela, peut-être qu'il faut identifier ce que c'est que le monde. Est-ce que ce serait d'un point de vue géographique ou peut-être d'une perspective physique? Pas du tout. Le monde, c'est cette conception, cette mentalité qui nous pousse à faire le mal, à nous attacher à ce qui est mauvais, à ce qui est pas bon pour nous, pas bon pour les autres, pas bon pour la société et donc pas bon pour cette terre. Et justement, si Dieu a un regard particulier sur la terre et qu'il souhaiterait nous enlever de cette mentalité de terre, c'est pour nous emmener dans quelque chose de meilleur. Et justement, si Dieu est bon, pourquoi la souffrance? Et ça, c'est une question qu'une de mes voisines me pose.
D'accord. Est-ce que tu veux dire par là qu'on voit le mal partout et on n'a pas d'explication? Et surtout quand les gens invoquent un bon Dieu, ils se disent comment un bon Dieu peut laisser autant de choses terribles. Cela tombe bien, mon voisin me pose la même question. Et il n'arrête pas de me poser cette question en disant « ton Dieu ». Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il ne fait pas pression sur les dirigeants du monde pour arrêter un peu la hausse des prix, par exemple? Mais c'est une question, c'est vrai que les non-croyants se posent, Mais curieusement, les croyants aussi se posent souvent cette même question. Elle est également sur les lèvres de ceux qui prient tous les jours et qui parfois demandent à Dieu, mais finalement, Seigneur, je crois en ton amour, mais pourquoi il m'arrive autant de problèmes? Et cette question, elle est là depuis des siècles, parce que quand la souffrance surgit, on a des questions qui se multiplient. Et parfois, on a seulement nos questions et un silence apparent de Dieu. Certains imaginent Dieu comme un metteur en scène et qu'il tient dans sa main le monde, les hommes, et il tient en sa main, en son pouvoir, chaque événement qui nous arrive. Chaque événement. Comme si chaque épisode de notre vie est réglé. Une telle idée paraît intéressante, mais la Bible ne va pas dans ce sens. La Bible ne dit pas que nous sommes des robots entre les mains de Dieu et que de temps en temps, il nous pique un petit peu pour nous faire souffrir, juste pour nous garder éveillés ou pour vérifier si notre foi a un bon niveau. Dieu lui-même n'envoie pas le mal. Alors la question se pose, Dieu fait-il souffrir? D'après les textes que nous avons dans la Bible, on voit que le mal ne vient pas de Dieu. Et nous renvoyons souvent au livre de Job, l'homme qui a la souffrance célèbre. Parfois on a dit pauvre comme Job, mais on pourrait dire souffrant comme Job. Et souffrant de manière inexpliquée ou inexplicable. Mais quand on lit bien l'histoire, on apprend qu'il y a un ennemi, un Satan, un diable qui vient et qui trouble l'homme. Mais la question se pose parce que souvent on se dit, mais au départ, Dieu lui-même avait vu que sa création était très bonne.
Et oui, on l'a vu ensemble.
Et pourquoi ce très bon qui a été évoqué pendant la semaine est devenu mauvais? Ou on pourrait dire, ce très bon s'est transformé en moins bon. Et en un moins bon qui fait souffrir. Alors, il a été dit à l'homme qu'à cause de ton péché, le sol sera maudit. La terre sera maudite. À cause du péché, la souffrance va entrer dans le monde. Et avec la souffrance, la conséquence la plus sévère, la plus irréductible, on pourrait dire, c'est la mort. La Bible, Paul dit dans Romains chapitre 6, verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. Et puis il va ajouter, heureusement, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus. Notre grande question, si Dieu savait que le mal allait venir, le péché allait venir, pourquoi il a créé quand même l'homme? Nous avons peut-être cette question et par analogie, nous avons une petite réponse, mais vraiment limitée dans notre sphère. Ce n'est pas parce que nous savons, ou même nos parents avant nous, qu'il y a des problèmes dans le monde, des risques d'accidents, de maladies, de chômage. Mais cela n'a pas empêché les parents de nous donner la vie. Et à notre tour, nous continuons. Nous ne faisons pas comme une sorte d'idéologie, une sorte d'abstinence pour éviter de la reproduction humaine, parce que nous prenons ce risque de faire face à la souffrance. Et la Bible nous dit que face à la question, si Dieu est bon, pourquoi la souffrance? Comme si Dieu nous dirait, et c'est ce que Jésus aimerait nous dire, face à la souffrance, quelle est la réponse de Dieu? Ben, la réponse de Dieu se trouve sur la croix du calvaire. La seule réponse inimaginable, parce que la souffrance aussi est inimaginable dans la création qui était très bonne. Ben la seule réponse que Dieu nous donne, comme si Dieu nous dirait, ben regardez mon fils sur la croix. Quand nous demandons, où étais-tu dans nos souffrances? Ben j'étais avec mon fils sur la croix. Où étais-tu dans nos tourments? Tu n'as pas vu souffrir cet enfant, ce bébé? Tu n'as pas vu souffrir mes parents, mon frère, ma soeur? Où étais-tu? Ben Dieu donnera la même réponse. J'étais là, avec mon fils. Parce que Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Alors le défi est d'accepter avec courage et confiance en Dieu tout ce qui se passe sur la planète. Surtout les événements qui ne dépendent pas de nous. Maintenant, la question de ma voisine est comment trouver la paix dans tout ce désordre-là?
Ben, dès le départ, Dieu nous appelle à la paix. Parce que depuis le jardin d'Éden, lorsqu'il dit à l'homme, « Où es-tu ?», c'est pour retrouver cette paix, pour retrouver un contact. Et il nous dit dans la parole, Matthieu chapitre 11, verset 28, « Venez à moi. Venez, je vous dis, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Donc dès l'instant où on s'aperçoit qu'on a un mal-être, un malaise, on a cette possibilité de nous tourner vers Dieu et de recevoir de lui ce repos. Mm-hmm. Parce que c'est un don, c'est un cadeau qu'il veut nous faire. Et il veut nous faire non seulement ce repos-là, pour un temps, mais il veut le faire pour la durée des temps. Il veut le faire pour l'éternité. Il veut que nous puissions venir à lui, non pas pour un jour, deux jours, une semaine ou un mois, ou peut-être même quelques années sur cette terre. Il veut que nous puissions entrer dans cette dynamique de la vie éternelle. Et d'ailleurs, Jésus invite à le suivre dans le royaume de Dieu, car cela vient d'une rencontre personnelle. Et donc, c'est peut-être là la réponse qu'on pourrait donner à ta voisine et à tous nos voisins. Nous avons un problème, tournons-nous vers Dieu. Lui, il a une solution. Lui, il va pouvoir répondre à toutes ces questions. Est-ce que nous ne voudrions pas, nous aussi, changer les choses? Et peut-être que toi qui es assis ce soir, ou peut-être toi qui es derrière ton ordinateur, est-ce que tu aimerais changer quelque chose? Peut-être que tu te dis, ben moi finalement, je suis bien là où je suis. J'ai un travail, ou du moins, je crois en avoir un. J'ai une maison, ou du moins, je crois en avoir une. J'ai une famille, du moins, je crois en avoir une. Parce que toutes ces choses, elles sont éphémères. Le travail, du jour au lendemain, on pourrait le perdre. La famille, malheureusement, un accident ou alors un conflit pourrait faire qu'on a perdu tout cela, la maison et tout. Tandis que Dieu nous appelle à cette rencontre où on ne va rien perdre. Quand on est avec lui, on ne perd rien, on gagne tout. Ainsi, il voudrait que nous puissions, dès à présent, devenir de véritables disciples. Et ce véritable disciple, c'est quelqu'un, ben, comme le dit la définition, hein, c'est celui qui est disciple, discipliné par le maître. C'est celui qui va suivre une discipline donnée par son maître. Donc devenir disciple, c'est l'un des moyens qui nous permettra de faire face à cette question et de pouvoir très clairement répondre aux autres. Enfin, Dieu ne nous demande pas l'impossible. Il nous demande tout simplement de faire un choix. Et ce choix nous appartient de façon individuelle. De l'accepter ou de le refuser. De lui dire oui, je veux marcher avec toi, tout en sachant que je ne pourrais pas le faire tout seul. Mm-hmm. Mais faire ce choix, ça m'appartient, parce qu'il ne pourra pas forcer la main, il ne pourra pas forcer mon choix. Mais cela va certainement changer certaines choses. Notre façon de parler, notre façon de réagir, notre façon de penser, notre conception même. Tout peut changer. Une telle décision nous engage, c'est vrai, mais cette décision, elle est bonne. Elle est parfaite. En fait, si la décision, elle est bonne, si je fais le choix de suivre Jésus, qu'est-ce qui va changer dans ma vie? À part ma façon de penser, de parole et tout ça, cette expérience spirituelle, c'est quoi exactement?
Alors, David, pour répondre à ta question, je crois que la Bible appelle cela... dans une phrase un peu plus longue, la joie de marcher avec Jésus. À chaque fois que la Bible évoque le croyant, il le met en marche. D'ailleurs, le livre des psaumes commence avec cette première idée. Dans la plupart des traductions bibliques, on dit « heureux l'homme », mais littéralement, c'est « en marche ».« En marche l'homme ». Celui qui croit, c'est celui qui ne reste pas assis. Celui qui croit est dans une dynamique. C'est pour cela probablement que Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». C'est-à-dire, quand on va à Jésus, ben, on ne va pas pour s'asseoir, on va pour marcher. Alors ceux qui aiment les randonnées vont comprendre cela. Être avec Jésus, vivre l'expérience spirituelle, c'est se mettre en marche. Le plus long des voyages, notez bien ceci, le plus long des voyages commence toujours par un premier pas. Et ce long voyage que tu évoquais à l'instant et qui va jusque dans l'éternité, ben, commence par un premier pas. Le pas de la décision de marcher avec Jésus. Je ne peux pas rester assis et dire « je marche avec Jésus ». Il faut que je montre à Jésus que je veux marcher avec lui. Marcher avec le Christ, c'est la plus belle des expériences terrestres. Tu parlais de décision tout à l'heure. Je crois qu'on fait beaucoup de rencontres intéressantes dans notre vie. On fait beaucoup de choix, on s'engage dans beaucoup de projets. Mais la plus belle décision qu'un être humain puisse prendre sur cette planète, c'est de donner son cœur à Jésus. Mmh. Parce que cette décision-là, elle a une portée éternelle. Parce qu'il y a des gens qui signent des chèques de millions ou de milliards, mais ça n'a pas d'impact pour l'éternité. C'est pour l'investissement terrestre. Mais marcher avec Jésus, cela nous engage, nous entraîne, nous met dans une dynamique qu'on appelle aussi le salut. Et avec le salut que Dieu donne, il donne aussi la capacité d'avancer. Il suffit d'accepter de faire le premier pas, parce que c'est le plus important, le plus déterminant, et Dieu fera le reste. Non seulement il donne la foi initiale, mais il nous accompagne par son esprit. Dieu ne nous laisse pas en chemin lorsqu'il nous appelle à marcher avec lui. Vous pourrez parfois vous trouver à des carrefours, et vous avez peut-être vu des automobilistes comme ça, ou des piétons, qui sont à un carrefour et qui sont hésitants. Parfois, vous êtes juste derrière, vous avez envie que les gens avancent, parce qu'à un carrefour, on ne s'arrête pas pour contempler le paysage. Mais il reste toujours des gens hésitants, parce que vous dites, ils n'ont pas encore décidé s'il faut aller tout droit, tourner à droite ou tourner à gauche, ou simplement se mettre sur le bas-côté, ou sur un parking, un emplacement quelconque. Quand vous prenez l'avion, vous embarquez parce que vous avez votre billet en bonne et due forme et un passeport valide, n'est-ce pas ? Avec l'autorisation d'aller là où indique votre destination finale. Vous ne demandez jamais à avoir le diplôme du pilote. Vous faites confiance. Quand vous déposez vos enfants à l'école le matin, vous ne demandez pas, le jour de la rentrée, à avoir le CV des maîtres et des maîtresses. Vous faites confiance parce que vous dites que quelqu'un d'autre a pris cette précaution. Quand vous recevez les devoirs, les notes, vous dites, bon, quand vous n'êtes pas très content, peut-être vous aurez une petite conversation avec ce professeur. Mais vous faites quand même confiance et vous savez que vous pouvez aller de l'avant. Vous allez de l'avant parce que vous croyez que toutes les conditions sont remplies. La dernière fois que vous avez acheté votre voiture, vous vous êtes mis au volant, vous avez démarré, vous avez roulé. Vous ne vous êtes pas demandé si toutes les pièces étaient d'origine, surtout si c'est une voiture neuve. Vous faites confiance. Vous n'êtes pas allé voir le chef d'atelier du concessionnaire pour poser beaucoup de questions parce que vous dites, elle est neuve, je fais confiance. Et vous marchez. Regardez le nombre d'actions ou d'actes que nous faisons chaque jour et qui engagent notre confiance. Ne serait-ce qu'aller acheter une baguette dans une boulangerie. La confiance. Quand vous sortez, vous faites confiance à beaucoup de choses et beaucoup de gens que vous ne connaissez pas. Êtes-vous prêt à faire confiance au Seigneur lorsqu'il vous invite à marcher avec lui, d'autant plus qu'il vous dit « Je t'accompagne. Je t'accompagne sur ce chemin. » Jésus veut vous le dire. Comprenez que dans ce contexte-là, la foi est dynamique, jamais figée. Il y a une part d'inconnu, un peu comme cette face cachée de la lune. L'autre partie qu'on ne voit jamais, parce que le soleil ne va pas de l'autre côté. Mais nous savons que la lune a quand même une autre face. Avec Dieu, parfois, il y a un peu cet inconnu. Ce n'est pas toujours en ligne droite, sur un tapis de velours, avec une sorte de cécité spirituelle. Non, il faut avoir les yeux ouverts, mais aussi le cœur, surtout, à l'écoute de la parole de Dieu. Dieu communique avec nous de plusieurs manières. Et il y a beaucoup de témoignages qui nous encouragent à aller de l'avant avec le Seigneur. Et je me demande, David, ce qu'il faudrait répondre à mon voisin s'il me demande ce qui va changer dans ma vie, si je dis oui. Allez, quand Dieu m'appelle, je dis, je marche. Je marche, d'accord, je fais un premier pas. Mais qu'est-ce qui m'attend au deuxième, au troisième pas? La grande question.
Ah oui, là, c'est une grande question, effectivement, parce que la Bible nous dit, dans 2 Corinthiens 5, verset 17, celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Il est devenu quelqu'un de nouveau. Et lorsque vous avez vos calendriers, et que pour ceux qui vont à l'école, ils étudient avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ, est-ce que ce serait là juste une façon de se repérer dans le temps, d'une certaine chronologie? Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi, d'une certaine manière, un avant sans Jésus et un après avec Jésus? Et effectivement, vous deviendrez de nouvelles créatures, ce qui sous-entend qu'avec Christ, il y a des choses qui vont changer. Mmh. Et ma vision de la vie va changer. Ma perception de mon voisinage va changer. Voisinage proche, mes enfants, mon épouse, ma famille, mes amis, mes collègues, ma vision sur eux vont changer. Parce que lorsque Dieu nous propose d'être une nouvelle créature, il nous fait la promesse de transformer ce qu'il faut transformer dans notre vie. Il ne nous laisse pas tout seul, comme nous l'avons déjà dit. Il veut prendre notre main et marcher avec nous. Et à chaque faux pas que nous allions faire, il sera là pour nous relever. Et c'est ça qu'il veut faire. Faire en sorte qu'au fur et à mesure, comme pour un enfant qui commence à marcher, il lui aussi fait ses premiers pas. Il chute, il se relève. Il y a le parent qui est là pour l'accompagner. Et c'est ce que Dieu veut faire avec chacun d'entre nous. Il veut nous accompagner. Aucun de nous n'a choisi de naître de façon biologique. Mais par contre, nous avons ce choix de naître de façon spirituelle. Nous avons à faire ce choix. Et j'ai envie de dire que ce choix, il est déterminant. Parce que cette nouvelle naissance que nous propose la Bible, sans cela, nous ne verrons pas le royaume de Dieu. Sans cela, nous ne pourrons pas aller plus loin. Peut-être que nous allons vivre 80 ans sur cette terre. Mm-hmm. Peut-être que, comme tu l'as dit tout à l'heure, nous aurons des jolis chèques à faire à droite et à gauche. Mais ça s'arrêtera là. On ne pourra pas faire cette expérience d'aller plus loin. Et pourtant, même ceux, on va dire les plus durs cas qui peuvent exister, la Bible nous dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Mm-hmm. Ça veut dire que les gens sont déjà programmés pour cette nouvelle naissance. Dieu a déjà mis toutes les conditions en place pour que nous puissions faire le meilleur choix. Il est là, il a tout mis en place, le cadre et tout, pour cette nouvelle naissance, donc pour ce nouveau départ. C'est possible.
C'est possible.
Le vrai signe de la présence du royaume de Dieu est la conversion qui se produit dans le cœur de l'homme et de tout homme sensible à la douce influence de l'Esprit. Il faut donc naître de nouveau. Il faut changer sa conception des choses, sa vision de l'expérience spirituelle pour voir réellement le royaume de Dieu. Ça veut dire que dès maintenant, nous pouvons participer à ce royaume. Nous pouvons donc devenir meilleurs. Nous ne serons pas parfaits. Mm-hmm. Nous pouvons tendre vers cette perfection. La Bible nous dit dans Jean chapitre 3, le verset 5 à 8, « en vérité, je te le dis. » Nul, s'il ne naît d'eau et d'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. S'il est né de la chair, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Et là, on pourrait se dire, mais c'est quoi cette histoire de nouvelle naissance? Parce que là, dans un premier temps, lorsque Jésus répond à cet homme, il lui dit qu'il faut tout simplement croire, et il va voir le royaume. Et là, dans cette deuxième partie, on lui dit non seulement qu'il faut croire, mais en plus, il faut adhérer d'eau et d'esprit. Il y a comme si un grade supplémentaire. Au départ, c'était juste voir le royaume de Dieu.
Donc il y a deux étapes.
Il y a deux étapes. C'est comme si, tu as parlé de voiture tout à l'heure, de belle voiture. C'est comme si quelqu'un voudrait posséder une voiture. Ah, elle est belle cette voiture. Hein. Donc il faut que je travaille pour l'avoir. Mm-hmm. Ça, c'est une première étape. La deuxième étape, c'est d'aller chez le concessionnaire et de signer ce chèque. D'accord ? Donc nous, nous avons aussi deux étapes. La première, c'est de voir ou d'entrevoir le royaume de Dieu. Parce que on sait qu'il faut naître de nouveau. On sait qu'il y a des belles choses qui nous attendent. Mais on n'y est pas encore. On n'est pas rentré. Et le fait de vouloir rentrer, ben c'est cette deuxième étape. Entrer dans le royaume de Dieu, c'est naître d'eau et d'esprit. Il y a donc une différence entre voir et entrer. Beaucoup de chrétiens de nos jours ont cette vision, on se dit oui, le royaume de Dieu, ah, on l'attend nous. Le retour de Jésus, on l'attend nous. Mais quand on gratte un petit peu, quand on essaie de voir dans la vie de ces personnes-là, c'est creux, c'est vide. Et j'ai bien peur qu'au moment où il faut rentrer, eh ben, certains restent sur le carreau. Certains ne pourront pas y aller. Il nous faut donc, oui, vas-y.
Est-ce que c'est ça qu'on appelle la conversion?
Oui. Oui, oui. Alors, regardez. Naître d'eau et d'esprit, c'est vivre la purification par le baptême christique. Le baptême que Christ a mis en place.
D'accord.
D'accord. Accepter de boire à la source d'eau vive et de contempler la vie éternelle par l'acceptation du don de Dieu en l'homme. Don qui transforme notre foi en une source d'eau vive jusque dans l'éternité. Celui qui accepte donc de vivre cette expérience de la nouvelle naissance, la naissance d'en haut, naissance qui vient de Dieu. Cette naissance d'esprit, celui-là seul, contemplera le Christ en tant que sauveur des hommes et seigneur de toute sa vie, se plaçant continuellement sous l'égide de la bénédiction du Saint-Esprit.
Donc, David, en t'écoutant attentivement, je me rends compte qu'il y a quand même quelque chose d'important que je dois dire à mon voisin.
Oui.
Par rapport à ses questions et peut-être aussi à sa réflexion. En somme, je dois lui dire que la vie chrétienne n'est pas quelque chose de théorique.
Non, c'est pas une idée.
C'est une dynamique.
C'est actif.
Et donc, je dois lui faire comprendre que marcher avec le Christ, c'est quelque chose de vrai, que c'est concret, que ça doit se voir. Jésus donne de nombreuses indications, d'ailleurs, dans sa parole, sur la manière de marcher avec lui. Et les apôtres vont le confirmer aussi, dans leurs prédications, dans leurs enseignements et dans leurs écrits. Et ils vont insister sur ce que le Seigneur attend de ses enfants. Donc, mon voisin doit entendre cela, que croire en Dieu ne suffit pas. Il y a beaucoup de croyants, mais Dieu veut voir des gens actifs. Tu as parlé de disciples au début.
C'est ça.
Un disciple, et j'ai bien aimé ce que tu as dit, le disciple se discipline. Mmh. Il met en pratique ce que son maître lui dit. Donc c'est cela, marcher avec le Christ. Le chemin de foi est comme une belle aventure qui nous projette inévitablement dans le futur. Est-ce qu'on peut dire qu'avec Jésus, il n'y a pas de surplace ?
Pas possible.
Avec Jésus, on ne tourne pas en rond. D'accord. On ne reste pas bloqué sur un rond-point.
Non,
on avance. Et quelle que soit la raideur de la pente, on avance. Parce qu'avec Jésus, on ne fait pas du surplace. En somme, chaque jour, on sort de la routine avec Jésus. Chaque jour devient une nouvelle occasion de vie, d'espérance, de joie, de gloire. Mais c'est un bon programme, ça. C'est un bon programme. Il faut que mon voisin l'entende. Et je veux croire que chacun de nous peut expérimenter cela. Chaque jour est une nouvelle proposition de pratiquer les enseignements du Maître. La foi, c'est bien la capacité d'accepter tout cela, n'est-ce pas ? La foi, ce n'est pas nier le réel ou la réalité des choses. La foi, c'est assumer le réel et le dépasser, parce que Jésus nous aide à le dépasser. Est-ce qu'on pourrait dire que la foi, alliée à l'espérance, c'est un peu comme regarder par-dessus le mur de toutes les difficultés et regarder au-delà de ce mur. Même s'il faut monter sur un parpaing, comme on le fait parfois, pour voir de l'autre côté, et comme si de l'autre côté, on voit une étendue. Mmh. Et c'est dans cette étendue que Jésus nous invite à marcher.
C'est ça.
Où va finir tout cela ? Qu'est-ce que Jésus pourrait encore dire à David, à mon voisin, pour comme si trouver le sens à la vie ? Parce que l'idée de marcher, on pourrait se dire marcher, c'est bien faire un pas, mais dans quelle direction ? Où aller ?
Je pense que le meilleur message qu'on pourrait donner à nos voisins est celui-ci. En quelques mots seulement, voici, je viens bientôt. Mmh. Lorsque Jésus prononce ces mots, voici, je viens bientôt, il est en train de sceller sa parole. Et on sait très bien que quand Dieu parle, la chose se réalise. Quand Dieu prononce une parole, elle trouve sa réalité. Nous, parfois, on peut se poser des questions, mais oui, tu l'as dit et on ne voit pas les effets dans notre vie. Mais quand il s'agit du retour du Christ, il avait déjà prévu de venir et il est venu. Tout a été mis en place et ça a été respecté à l'année près, au détail près. Et là, il nous dit, je viens bientôt. Donc, s'il y a un message qu'on pourrait donner à nos chers voisins, c'est celui-ci, Jésus revient bientôt. Et d'ailleurs, Jean 14 nous dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Une pour toi, une pour chacun d'entre nous, une pour ceux qui sont derrière les écrans. Personne ne pourra prendre la place des autres. Chacun a sa place. Donc, je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai. Ça, c'est une promesse. Je reviendrai vous prendre afin que là où je suis, vous y soyez vous aussi. Oui, Jésus revient bientôt et parfois on pourrait se dire, mais ça fait des années, des dizaines d'années, des centaines d'années qu'on est en train de nous dire, Jésus revient bientôt et il n'est toujours pas là. Et cela parfois pourrait mettre mal à l'aise nos voisins. Lorsqu'on leur parle de Jésus qui revient bientôt. Parce que le fait de dire aux gens « Jésus revient bientôt » pourrait déranger leur habitude de vie, leur style de vie, leurs ambitions parfois, leur idéologie. Et c'est pour ça qu'on a vu tout au long de cette conférence ce soir, il y a des changements. Ceux qui sont chrétiens et qui continuent dans leur routine, comme tu as dit tout à l'heure, ils ont un problème. Parce qu'ils ne sont pas en train de se préparer à rencontrer cette personne si importante, qui nous a déjà donné ce rendez-vous, mm-hmm. qui a déjà prévu une place pour nous. Et comme tu disais, si quelqu'un devait recevoir le président, donc j'espère que ton voisin pourra recevoir le président sans problème.
Oui, oui, ce hein? soir, on va essayer d'aller.
Mais là-dedans. Si cet être important et ce Dieu devait nous rencontrer, est-ce que je suis prêt à le rencontrer? Est-ce que mon voisin, ma voisine serait prêt à les rencontrer? Est-ce que j'aurais tout mis en place pour que la vision du nouveau ciel et de cette nouvelle terre leur soit accessible? Dieu ne manque pas dans ses projets. Et d'ailleurs, Apocalypse 21 nous dit « Alors je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. » Moi, je m'imagine, hein, en regardant autour de moi, tous les murs que tu nous as dit qu'il faut surmonter, la souffrance qu'on a vue à travers cette semaine, les gens qui sont victimes des marchands de la mort, les gens qui sont victimes des banquiers, les gens qui sont victimes de tout ce dont nous avons parlé pendant ce week-end, pendant cette semaine, nous sommes en train de leur dire « table rase, c'est fini. Lorsque Jésus revient, il y a un nouveau ciel, une nouvelle terre. » Et toutes ces choses que nous connaissons aujourd'hui vont disparaître pour laisser place à un paradis.
Mais il y a des gens qui disent ben, « peut-être Jésus a oublié sa promesse, non ?»
Certains le disent, mais c'est peut-être parce que je ne suis pas encore tout à fait prêt. Peut-être que je ne me suis pas encore mis dans cette dynamique où quelques-uns. Mais Dieu a un temps. Mm-hmm. Dieu a un temps et son temps est précis.
D'accord.
Il n'attendra pas que toi et moi, on soit tout à fait prêts. Il laisse... Et comme on l'a dit tout à l'heure, il frappe à la porte, il frappe en permanence. Lorsque nous considérons le texte de 2 Pierre 3, versets 11 à 14, nous pouvons lire ceci. « Puisque tout cela doit aussi ainsi se dissoudre, quel donc homme devez-vous être? Quelle sainteté de vie? Quel respect de Dieu? Vous qui attendez et qui hâtez la venue du jour de Dieu, jour où les cieux enflammés se dissoudront et où les éléments embrasés se fondront. Nous attendons selon la promesse des cieux nouveaux et nouvelle terre où la justice habite. C'est pourquoi, mes amis, dans cette attente, faites un effort pour qu'il vous trouve dans la paix, nette et irréprochable. Ça, c'est l'exhortation que Dieu adresse à chacun d'entre nous, à toi, à moi, à ceux qui le veulent. Une telle exhortation encourage à une conduite qui reflète la foi, l'espérance et l'amour. Une foi inébranlable dans la première venue, l'espérance déterminée dans la seconde et l'amour pour autrui. Un amour salutaire. Oui, voulez-vous, vous aussi, vous tenir prêt pour cet événement glorieux? Est-ce que toi, tu souhaiterais te tenir prêt?
Moi, je veux me tenir prêt. Je veux me tenir prêt parce que pour rien au monde, je ne voudrais rater cette occasion. C'est trop beau pour ne pas y prêter foi.
Alors moi, j'ai fait ce choix. J'ai fait le choix de me préparer, de me tenir prêt. Et maintenant, ce que je fais, c'est que je prie. Je prie pour ma famille. Je prie pour mes amis. Je prie aussi pour mes voisins. Je prie pour les gens que Dieu place sur ma route pour qu'un jour ou un autre, leurs yeux s'ouvrent et qu'ils soient éclairés. Parce que moi, je ne pourrais rien faire si ce n'est que leur apporter ce message. Après, c'est à eux d'accepter. Et au moment où ils vont accepter, leurs yeux s'ouvriront.
Tu veux dire, aujourd'hui, le 18 mai 2019, l'occasion nous est encore donnée de parler à nos voisins, de leur dire « Jésus revient bientôt » et que nous-mêmes, nous sommes invités à être prêts pour que le témoignage soit plus fort.
C'est ça.
Pour que nous soyons crédibles. Mmh.
Donc Dieu donne à chacun d'entre nous, selon sa mesure de foi, la possibilité de comprendre les grandes lignes de son projet rédempteur, son projet qui passe par la croix, comme on a dit tout à l'heure, et qui aboutit à la vie éternelle. Ainsi, l'Église, qui vit dans l'espérance, peut dire en toute confiance qu'elle est sur la terre la seule entité sûre de son avenir. Parce que Dieu a institué l'Église. Dieu a prévu cela. À mon voisin, à ma voisine, à ton voisin, à ta voisine, nous pourrions dire que Jésus revient bientôt et qu'il faut absolument se tenir prêt si nous voulons ne pas être surpris. Mm-hmm. Parce que la Bible est claire. Il peut surprendre certains parmi nous. Nous pouvons faire cette ultime prière qui est écrite dans Apocalypse, qui conclut le livre de la Bible en disant « Amen, viens Seigneur, Jésus. »
Alors nous souhaitons vraiment que cette prière soit nôtre, individuellement comme collectivement. Alors, chers voisins, chères voisines, retenez l'idée, Jésus revient bientôt. Vous pouvez oublier tout le reste. Oubliez peut-être que beaucoup de promesses vous ont été faites, mais Jésus dit, ses paroles sont certaines et véritables. Alors, en tant que porte-parole de ce Dieu, aujourd'hui, David et moi, nous avons voulu vous communiquer tous ces différents messages que Jésus avait pour plusieurs personnes. Mais c'est vous personnellement que nous voulons interpeller ce soir. Prêtez une oreille attentive, parce que Jésus revient bientôt et qu'il a fait la promesse, il vous prépare une place. Ne laissez pas votre place. Dieu ne va rien perdre. Si nous abandonnons cette idée, c'est nous qui allons perdre quelque chose. En tout cas, que Dieu vous bénisse dans votre foi et surtout dans votre espérance. Amen.